Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
E va bene lo so, oh, oh. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere, non si.
Aligre FM presenta Cappuccino. Il presentatore del 9.30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Sì, buongiorno.
Ah là là, voilà, c'est un petit peu la confusion quand on fait les changements comme ça, les invités qui arrivent, donc ça bouge un peu dans tous les sens, mais on est toujours là, donc jusqu'à 11h sur le 93.1, on rappelle, donc sur le DAB, sur la FM, et puis également sur Internet, Aligre FM ou Cappuccino. Donc on remercie même ceux qui nous écoutent en province, et on sait qu'on a beaucoup. On salue aussi tous les... Bah tiens, toute l'équipe de Topitalia, puisque Enrico, il a été là-bas et il a fait la technique, donc on salue tout le monde. Et puis on vous souhaite un bon dimanche, plein de bonnes choses. Voilà, en ce début de semaine, aujourd'hui, notre invité, le philosophe Stéphane Flocard, qui va nous parler de son parcours de Calabrais et de passionné de calcio avec son livre « Pourquoi le foot ?». On se baladera comme ça de Jeuf à Messine, on vous expliquera pourquoi. Et puis également, il y aura notre ami Didier qui retracera le parcours d'un grand footeux italo-français, Michel Platini, mais avant le ballon rond. Donc, quelques informations culturelles. Alors, pour commencer, notre ami et comédien Pepe Moro propose un spectacle « Mon cousin italien ». Un Calabrais en France, hein, décidément aujourd'hui, c'est la Calabre qui est beaucoup mis à l'honneur. Le jeudi 16 octobre à 20h au théâtre La Boussole, 28 rue de Dunkerque, dans le 10e, pour réserver 01 85 08 09 50 métro Gare du Nord. Et puis également l'association Italiani in Europe, l'association de Chantal, organise un voyage culturel en Albanie. Du 15 au 22 mai, avec Tirana, Apollina et Tutti Quanti, donc à visiter avec l'association italienne In Europe. Pour tout renseignement, vous téléphonez au 06 66 25 92 88. C'est à Cantaline. Et puis, il y a aussi, bien sûr, Marie-Rose. Et puis également, la mairie de Montreuil organise une rencontre de chants traditionnels italiens du 17 au 19 octobre avec le Coro Val Curiasca. Je ne sais pas si je le dis très bien. Peut-être non, peut-être si. Et du vendredi 17 de 19h à 22h, le samedi 18 de 10h à 17h, et puis le dimanche 19 de 10h à 14h, c'est métro Mairie de Montreuil, ligne numéro 9. Et puis, bien sûr, vous allez sur le site pour avoir tout le programme de ces chants traditionnels. Et alors, ce que je vous propose là maintenant, c'est d'écouter un morceau qui va être proposé du vendredi 17 au dimanche 19, c'est la semaine prochaine, par le Coro Val Curiasca. Je pense que c'est l'odette au Ben, là, non? Ne regarde pas comme ça, Stéphane, tu me fais peur. Un sabato sera, on écoute.
Un sabato di sera e al tramontare del sole.
Sure.
ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Voilà, vous êtes bien dans Cappuccino. Et puis, on redonne deux petites informations. L'association des Calabrais propose une croisière dansante du 30 novembre au 7 décembre. C'est-à-dire, vous dansez pendant 7-8 jours. Voilà. 8 jours exceptionnels. Départ de Marseille, Gênes, Naples, Palerme, La Goulette, Barcelone et Marseille avec la compagnie MCS. C'est Bruno Moy qui s'occupe de ce voyage. Pour plus d'informations, vous téléphonez au 06 60 84 77 34. Et puis également, demain, il y aura un hommage voilà, au cimetière de Bligny et de Soupir. Donc, pour ceux qui veulent aller, c'est donc rendez-vous à 10h à La Nation. Et la journée est complète puisque le matin, c'est l'hommage au cimetière de Bligny. Et après, il y a un repas. Et l'après-midi, c'est Soupir. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est demain. Vous pouvez téléphoner à Renato Zuliani, 06 61 24 34 58, s'il y a encore un petit peu de place. Alors, la semaine dernière, vous avez découvert Cathy Fuoco, l'italo-canadienne, qui nous propose aujourd'hui un audio des pleureuses calabraises.
Bonjour, mon nom est Cathy Fuoco, si, Fuoco, l'italienne del Canada. Vous écoutez Cappuccino sur Aligre. Ciao!
Bienvenue dans la Minute à l'italienne. Laissez-moi vous amener dans un voyage à travers les époques où les coutumes et les habitudes sont transmises de génération en génération et font partie du quotidien comme un espresso,
un biscotto ou une pasta carbonara, un panino
ou bien un tiramisu. Une excursion rapide dans la culture italienne où j'explique avec humour et bienveillance les raisons derrière certaines de nos coutumes et habitudes très particulières. Aujourd'hui, dans la Minute à l'italienne, nous parlons d'un métier oublié, mais ô combien respecté. Les pleureuses.
On s'entend qu'on n'a rien inventé, hein?
Elles y étaient de la Grèce antique à l'Empire romain. Et dans le sud de l'Italie, on les appelait les piange muerti. Oui, oui, celles qui pleurent les morts. Je parle ici de vraies pleureuses professionnelles, celles qui, à l'époque, étaient engagées pour venir pleurer aux funérailles. Semblerait-il qu'en Calabre, dans le sud de l'Italie, d'où ma famille vient, on en trouvait encore dans les années 80. Mais au Québec, comment se fait-il que les gens connaissent ça? Moi, j'en ai jamais vu, enfin... Je crois pas. Il faut comprendre que le rôle de la piange muerti, c'est de faire paraître plus important l'hommage rendu aux défunts. C'est pas une blague. Et attention, c'est pas juste quelques larmes discrètes. Non, 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 non. C'est du grand art. Des cris, des chants, des lamentations, tout pour montrer l'importance et la grandeur du deuil. Et surtout, ça aidait l'âme à passer de l'autre côté. Mais au fond, ces pleurs, c'est pas juste du théâtre. C'est une façon de montrer l'amour, la tristesse et surtout de ne pas laisser partir quelqu'un qui nous est cher
dans le silence.
C'était Cathy Fuoco. On se retrouve bientôt pour une autre Minute à l'italienne. Ciao! À la prossima!
Alors, notre invité aujourd'hui est Stéphane Flocari, qui est docteur agrégé en philosophie, professeur au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés, chargé d'enseignement à la Sorbonne. Stéphane Flocari est depuis l'enfance un passionné de football, qu'il a pratiqué dans l'équipe de France des écrivains. Il est l'auteur aux belles lettres de Nietzsche et le Nouvel An et Survivre à Noël, publié aux éditions Encre Marine, et du Pourquoi le foot est grand admirateur de Michel Platini. Bonjour.
Bonjour Michel.
Ça va?
Ça va très bien, merci.
Mission un peu folle hein, au départ, mais voilà, moi je suis content parce qu'on va parler de foot, mais peut-être d'une manière un petit peu différente, peut-être en allant un peu plus dans les profondeurs du foot. Pourquoi le foot? Voilà, et avec. On expliquera déjà rien que ce titre, parce que je crois qu'il y a aussi quelque chose derrière par rapport à ton fils. Grand admirateur, comme je disais, de Michel Platini. Pourquoi?
Oh, parce que Michel Platini, c'est grand admirateur de Michel Platini, le footballeur. Hein. Effectivement, dans les années 1980, c'est quelqu'un qui a illuminé le football français. Un football français qui, à l'époque, gagnait pas grand-chose. Il a quand même gagné l'Euro en 1984. Mais un football qui était incandescent, qui était pétillant, qui était intelligent, qui était volontaire. et qui était ascensionnel à l'époque, à mon avis. Et Michel Platini était une figure tout simplement fulgurante. C'est quelqu'un qui, au lieu de courir partout avec le ballon et d'être divin comme Maradona l'était ballon au pied, lui, c'était la géométrie du terrain. C'est quelqu'un qui créait des espaces, des trous. C'est quelqu'un qui vous mettait en orbite en une demi-seconde à 40 mètres au millimètre près. Donc Platini, pour moi, c'était l'intelligence.
Alors en plus, c'était quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous, pour les Italo-Français, puisque en fait, quelque part, dans les années 70-80, quand il a émergé, on était tous un peu des Platini.
C'est vrai, mais...
On était nés en France comme lui, de parents italiens, voilà, on était... Et en plus, après, Didier nous le dira, il a été joué à la Juve, etc. Donc c'était un peu nous, Platini.
On était bien sûr très Platini, on était quand même un peu moins Genghini ou Baratelli, même si on les aimait bien aussi. Il y avait dans Platini une sorte de quintessence du football, surtout que c'est quelqu'un qui a d'abord été refusé par le football. C'est quelqu'un qui n'avait pas les caractéristiques physiques suffisantes pour faire soi-disant un champion, qui a été refusé par le centre de formation de Metz, et qui dans l'endroit même où il a grandi, où son papa a été un éducateur, un professeur de mathématiques, Aldo, il a fait ses classes. Il a fait ses classes à une époque où il n'y avait pas de centre de formation, où on jouait pour jouer. Et vous savez, quand Kylian Mbappé explique aujourd'hui qu'il a gagné la Coupe du Monde de football à 18 ou 19 ans et qu'il n'a pas réalisé, c'est normal. Moi, j'ai un élève à l'INSEP qui est vice-champion olympique de tir à l'arc par équipe. Il avait 17 ans quand il a gagné les Jeux Olympiques. Enfin, il était vice-champion olympique il y a 2 ans. Il ne réalise pas à 17 ans. Parce qu'à 17 ans, que vous jouiez la Coupe de votre quartier ou la Coupe du Monde, c'est la même chose. Vous jouez pour jouer. Et je crois que si on a tant aimé l'équipe de Platini, c'est qu'elle jouait pour jouer, elle jouait pour gagner, elle ne jouait pas pour l'argent. À l'époque, avec un salaire de footballeur, on s'achetait une Renault 5.
C'est vrai, les salaires étaient beaucoup moindres que maintenant. Alors on va écouter une biographie rapide de Didier Béraud, buongiorno.
Buongiorno, bonjour à tous.
Il parle un peu italien maintenant.
Un tout petit peu, mais vraiment quelques mots. Hein.
On le rappelle, il a participé de nombreuses années à l'Italie en direct le lundi matin. On donnait les résultats de foot ensemble. Et puis récemment, on a pu t'écouter avec les petites pastilles sur l'Europeo.
Tout
en 2024, hein, c'était...
Toute l'Europe, voilà. Toute l'historique, on s'est vraiment régalé.
La Squadra Azzurra, voilà. Qui à l'époque fonctionnait un petit peu mieux que maintenant, mais voilà, ça va revenir. Ça.
Voilà, moi je vais essayer d'être le plus court possible, parce que Platini, on pourra en parler des heures, hein, donc je crois que c'est un footballeur, oui, qui a illuminé notre jeunesse, qui a vraiment révolutionné un petit peu le football, comme nous disait très justement Stéphane. À l'époque, il est arrivé avec cette génération, au milieu des années 70, le football français ne gagnait plus rien, presque. Et il est arrivé avec cette équipe et donc ils ont fait des résultats en Coupe du Monde, ils ont fait des résultats au Championnat d'Europe. Donc ça a été quelqu'un qui a été très important. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur 10 points avec lui. Alors, Joffe, bien sûr, Joffe, c'est son lieu de naissance. C'est là qu'il est né, c'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il s'est révélé à la Lorraine. La Lorraine, c'était la Meurthe-et-Moselle, c'était là la petite Italie. C'est là que ses parents sont arrivés, plus précisément ses grands-parents, après la Première Guerre mondiale. Son grand-père tenait un café et il jouait beaucoup à la Scopa. C'est la belote italienne, je crois, ouais, si je ne me trompe pas. Donc voilà, là, il a vu un petit peu le monde sportif, le monde du football. Et c'est là qu'il a commencé un petit peu à jouer, à se révéler. Et comme disait très justement Stéphane, après, il a été malheureusement recalé par le centre de formation de Metz. Bah, celui-là qui l'a recalé a été très vite viré après, par la suite, par le bon président Carlo Molinari. C'était une histoire de spiromètre. Donc Platini était un peu stressé, n'arrivait pas à souffler dedans et était recalé pour ça. Bon, Nancy en a profité. Il a fait 7 ans à Nancy, 7 ans qu'il a gagné une Coupe de France, son premier titre. Et ensuite, c'était l'aventure avec les Verts. C'était plus les Verts d'antan, mais c'était les Verts quand même. Là, il est resté 3 ans à Saint-Etienne. Pendant 3 ans, il a gagné un titre de champion de France. Malheureusement, en Coupe d'Europe, il n'a pas été très long parce qu'il a eu 2 quarts de finale. Et il a fait 2 finales de Coupe de France. Ensuite, bien sûr, c'est l'envolée vers la Juve, où qu'il a été nommé meilleur joueur du siècle de la Juve. Hein, c'est quand même assez étonnant. Et là, ça a atteint un palmarès fulgurant. Le numéro 10 qui a eu 6 mois pour, on va dire, s'imposer. Il a été voir très vite l'avocat Agnelli. Il dit, voilà, moi, je n'arrive pas à jouer. Les joueurs ne jouent pas pour moi. Ils étaient un petit peu nostalgiques de l'Irlandais Liam Brady. Et Platini, après, l'équipe a joué pour lui. Il s'est envolé. Et après, ça a été plusieurs Scudetti. La Coupe d'Italie, la Coupe des Champions, la Coupe des Coupes, la Super Coupe, la Coupe Intercontinentale. On a du mal parce qu'il y a tellement de titres. 3 fois meilleur buteur du championnat d'Italie. 3 ballons d'or. Voilà, un palmarès étonnant. Tu as parlé tout à l'heure du championnat d'Europe. Là aussi, c'est un record qui ne sera certainement jamais battu. 9 buts en 5 matchs, 2 triplés. Donc voilà, c'était, je pense, dans les années 84-85, ça a été tout simplement le meilleur joueur du monde. Au Ballon d'Or, on revient au Ballon d'Or, il avait pratiquement fait le maximum de points. Donc c'était un joueur qui a, par son jeu millimétré, Platini, c'était un petit peu... Il avait une phase d'avance sur les autres. Il voyait le jeu d'après. Donc dans ses transversales, il avait déjà le jeu d'après au niveau du terrain. Donc voilà, c'était un très très grand joueur. Sa carrière, malheureusement, s'est arrêtée très vite parce que il était un peu lassé du football déjà qui changeait fin des années 80. Le ESL l'a beaucoup marqué, bien sûr, comme nous tous. Et sa carrière s'est arrêtée un soir du 17 mai 87 contre Brescia sous la pluie. Et donc, ça a été la fin de sa carrière professionnelle. Après, très vite, il a été sélectionneur pendant 4 ans de l'équipe de France avec des résultats, on va dire, somme tout moyen malgré une qualification au championnat d'Europe 92. Et puis après, il a été président de l'UEFA avec malheureusement les quelques malheurs qu'il a eus. Ouais. Voilà. Mais ça restera un grand joueur, comme le disait Stéphane, quelqu'un qui a fait repartir l'équipe de France. Et je pense quelqu'un qui a marqué l'Italie, parce que là-bas, on l'appelait tout simplement Michel.
Le roi Michel. Alors, on va l'écouter, Michel Platini. C'est un interview. Il était tout jeune. Hein. Il venait juste d'arriver à la Juve en 82. Alors, il faut bien tendre l'oreille. Et on lui demande un peu qu'est-ce que ça fait de jouer avec 6 champions du monde. Et on l'écoute.
Un portrait de Platini, l'Italie. C'est gentil, les gens d'Italie. Et puis,
l'italien, ça va, ça parle rien, ça va. Mais je crois que c'est la ville la plus francophone d'Italie et beaucoup de monde qui parle français. On se sent vraiment pas du tout dépaysé. On est bien. Je suis bien en demi.
En tout cas, quand vous êtes sorti, les gens sont précipités pour demander des autographes. Ça y est, vous êtes
corrupté. Ils sont un peu collants, ils sont un peu fanatiques. Peut-être un peu trop, puisqu'on n'arrête pas de parler. Il y a énormément d'argent qui se joue sur le football. Donc, c'est un phénomène social. Il y a des milliers de gens qui vivent du football.
C'est une importance terrible.
Comment ça va avec les autres joueurs de la Juventus, enfin la Juventus?
La Juventus, non, ça va très bien. Je pense que, en tant que footballeur, on les connaît tous. Ils sont très, très bons, les footballeurs. Ils ont gagné la Coupe du Monde, on peut pas faire mieux. Puis en plus, ils sont des gars qui sont en opinion sur rester simple. Ils sont très gentils, très, très sympathiques, très braves, comme on dit.
Il faut voir dans quel genre de club a atterri Michel Platini. Il y a 6 champions du monde dans la Juventus. C'est l'ossature de l'équipe nationale qui a battu l'Argentine, le Brésil et l'Allemagne en finale et qui a donc remporté la Coupe du Monde. En tout cas, il n'y a pas le moindre soupçon de complexe chez Platini, qui joue avec Paolo Rossi, Tipa Bito, un monstre d'opportunisme. Il ne faut jamais le laisser une seconde seule devant les buts. Dino Zoff, 42 ans, gardien de but inamovible, capitaine de l'équipe nationale, championne du monde. Antonio Cabrini, le playboy de la Juventus, le chouchou des tifosi du sexe féminin et un très bon joueur. Claudio Gentile, il a complètement neutralisé Zico et Maradona en Espagne. Et puis il y a Roberto Bettega qui était blessé mais qui recommence à marquer de la tête. Il y a Zbigniew Boniek, le char d'assaut polonais, le second étranger de la Juventus avec Platini. Le but de la Juventus, c'est de gagner la Coupe d'Europe.
Le but de la Juventus, c'est tout gagner.
Tout, le championnat, la Coupe d'Europe.
Tout, je crois qu'on a des moyens de le faire.
Le public italien, il est plus chaleureux que le public français, plus enthousiaste.
Oui, il est déjà plus nombreux et s'intéresse beaucoup plus au foot. En plus, aussi avec Toto Calcio, qui fait vivre des dizaines de centaines de milliers de personnes. Et ça passionne un peu toute l'Italie, donc tout le monde s'intéresse au calcio, s'intéresse aux footballeurs, fanatiques.
Ouais, c'était un petit peu difficile comme son, parce que c'est 82, c'est un piquage comme ça d'un interview. Mais ce qui était sympa, je trouve, Stéphane, c'est qu'en fait, il parle d'un football français qui, à l'époque, était vraiment pratiquement en série B, et ça a complètement changé.
Oui, je mets au défi nos auditeurs là, ce matin de reconnaître la voix de Michel Platini. Parce que vraiment, on n'a pas du tout l'impression que c'est la voix de Michel, même si on reconnaît un peu son phrasé et un peu les mots qu'il choisit et la manière dont il les choisit. Ça n'est pas encore d'ailleurs le Michel Platini complètement libéré et devenu l'empereur du football piémontais. On voit qu'il est encore un peu sur la réserve, qu'il est encore un peu timide, alors que c'est un garçon qui était capable de dire des choses tout aussi précises, qui était capable de faire des passes. Alors effectivement, 1982, c'est un moment tout à fait particulier. Vous m'invitez ce matin. Vous faites le plaisir de venir m'inviter dans cette émission italienne de France et pour parler du football. Alors juste avant de vous parler de Michel Platini, si vous permettez, Je voudrais juste vous dire une chose. Tout à l'heure, vous avez écorché mon nom et j'ai trouvé que c'était très bien. Parce que moi, j'ai toujours aussi du mal à le prononcer Floccari. Floccari.
Floccari.
En italien, c'est l'accento tonico. Sur le O, donc on dit Floccari. C'est un mot grec, en fait. Floccares, en grec, ça veut dire celui qui s'occupe de ses petits, celui qui s'occupe de ses enfants. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie pour mes 4 enfants que j'adore. Aussi difficile que cela puisse être parfois de s'occuper de ses enfants, n'est-ce pas? Tout le monde sait ça. Et comment dire, hier, mon fils me disait, alors papa, demain, tu vas à l'émission. Mais alors, t'es Stéphane ou t'es Stefano? Et vous voyez, sur le prénom, c'est très important aussi parce que moi, j'ai une maman française. Et j'ai un papa né italien sur le sol français, devenu français, combattant en Algérie parce qu'on l'a récompensé d'être français par 3 ans en allant castagner des Algériens, n'est-ce pas? Et qui m'a toujours dit, moi, j'ai, comment dire, je vis comme un Français et j'ai la rigueur d'un Allemand et le cœur d'un Italien. C'est compliqué de savoir qui on est, vous savez. Et moi, je n'aime pas qu'on m'appelle Rital, par exemple. C'est un mot que je n'aime pas. C'est un mot que je n'ai jamais aimé, que je n'aimerai jamais. Je ne serai jamais Rital comme M. Barzotti, pour lequel j'avais du respect par ailleurs. Je crois que Rital était une insulte. Parfois, il est prononcé gentiment par certaines personnes, mais je n'aime pas ce mot. Et quand je suis en France, je tiens toujours à être Stéphane, en Italie aussi. Mais avec mes cousins, je peux être Stefano. C'est compliqué, vous savez, l'identité et ce qu'on est. Et Michel Platini, pour moi, l'une des choses qu'il a représenté, c'est précisément un trait d'union, une sorte de gommage de la frontière entre les deux pays que j'ai toujours eu dans le cœur. Parce que, comme Lino Ventura, je me plais à dire que mon pays va de Roubaix jusqu'à Trapani. Et que, surtout, la capitale, c'est Reggio de Calabre, plus exactement Campo Calabro, aujourd'hui, où j'ai ma maison, avec mes frères et mon père. Et Michel Platini, en 1982, il nous a offert à nous, franco-italiens, quelque chose d'extraordinaire. Parce que les Français, et j'étais pleinement un Français à l'époque, mais figurez-vous que en juillet 1982, je suis avec mes frères en colonie de vacances. On est à côté de Tarquinia, grâce à notre grand ami Raphaël Fior, que j'ai toujours beaucoup de bonheur à voir et à rencontrer, que j'aime vraiment beaucoup. Et Raphaël nous avait donné la chance, nous petits enfants calabrais, de partir avec les Italiens du Lazio. Des Italiens romains, et on était partis en colonie de vacances, et on se retrouve dans un camping, et un soir, il y a la fameuse soirée de Séville, où les Allemands, de manière extrêmement injuste,
82, battent
des Français qui étaient au bord de l'exploit, en menant 3-1 en prolongation, et qui se font battre par le réalisme de Rummenigge, de Roubaix, et là, les Italiens nous vengent. C'est-à-dire le côté italien venge le côté français qu'on avait.
Tout le monde était pour l'Italie après.
Et Michel Platini, effectivement, on a eu parfaitement raison de le rappeler. Il a eu du mal à s'intégrer au début à la Juve.
C'était 6 mois très difficile.
6 mois difficiles. Ensuite, il est allé voir l'avocat Agnelli.
C'est exactement ça.
Il a repositionné avec Boniek le jeu.
Voilà.
Et il s'est placé, parce que Platini, c'était un 10, mais qui en réalité était capable de jouer très derrière et d'envoyer une balle à 40 mètres. Mais son vrai jeu, il a évolué vers un 9,5. C'est-à-dire, c'était un numéro 10 extrêmement buteur, extrêmement offensif. Puis, on a quand même oublié de dire, enfin, on va oublier, on n'a pas encore dit que c'était un formidable travailleur. Ça, vous savez, c'est très italien. C'est-à-dire, ça, c'est très italien, mais italien de l'ère industrielle, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a industriellement et artisanalement inventé le coup franc parfait. C'est-à-dire, c'est le contraire du talent. C'est le contraire du génie spontané. C'est quelqu'un qui avait un mur métallique et qui travaillait dans la boue, dans la terre, dans la glace, dans la neige, dans l'est de la France, et qui, à Nancy, a inventé le pénalty. Fruité, c'est plus musclé. Le monde se rappelle la pub de l'époque. Hein.
On va faire une petite pause musicale avec une chanson que tu as choisie. D'ailleurs, toutes les chansons que tu as choisies.
Bien sûr.
C'est Pino Daniel qui chante Terra Mia.
Magnifique.
Com'è triste, com'è amare, sta settata a guardare tutte cose, tutte parole che niente può fare. Si ma c'era agitato che lo poche libertà
questa terra e sta gente non giorno ma darà. Terra mia, com'è bella la panzana. Terra mia, com'è bella la guardà. Non ne ho vero né sempre stessa, tutti i giorni può cagnà. Oggi è dritta, rimane storta. E che sta vita se ne va, che vecchia vanno rinta chiesa come una patria, e ha paura sta morta che non ci vola sa. Terra mia, tu si chiede libertà. Terra mia, io mi sento libertà. Da dun da 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 dun da 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 da.
La squadra di Cappuccino, portiere Raff, difensori Pietro, Renato, Nicole, Cantalina. Al centrocampo Lino, Fabrice, Tony, Didier. Attaccanti Michele, Francesco.
Attaccante, una volta magari. Voilà, nous sommes avec Stéphane Flocari qui nous parle de sa passion pour le football. Et puis, donc, on revient. Là, on a parlé beaucoup de Platini. D'ailleurs, il y a un Torinese qui est là, qui commence à faire le mousse. Parce qu'il dit, ah, eh ben, la you, vraiment. Aujourd'hui, comme ça. On salue Renato Zuliani qui est avec nous. Et puis, donc, on revient avec ce livre qui donc, s'appelle Pourquoi le foot? Et tout a démarré d'une réflexion de votre fils de 16 ans.
Ou plutôt que moi, j'ai fait à mon fils de 16 ans, parce que j'avais un fils qui jouait pas mal au ballon. Il était bien meilleur que moi. Moi, physiquement, j'avais de grandes qualités, mais techniquement, j'étais un petit joueur de quartier. Mon fils était très à l'aise techniquement. C'était un très bel attaquant. Et par contre, il voulait pas trop bosser et il allait au foot pour s'amuser avec ses potes. Mais il avait cette idée dans la tête qu'avait une partie des gamins de sa génération, c'était que le foot, ça devait conduire au fric. Et que donc, quand on jouait bien au ballon, ben on allait devenir milliardaire. Moi, je lui disais, tu sais, moi j'ai joué avec tes oncles au foot. On a joué en club, on a joué dans la cour aussi. Pendant des années, nous, on avait un pavillon à l'italienne. Mon père avait une société, comme tous les Italiens. Il était imprenditore, comme on dit. Il avait une société de métallerie. Nous, on avait des parpaings, on posait deux parpaings. On jouait au foot entre deux parpaings. On jouait dans notre chambre avec deux coussins. On cassait des trucs dans la maison parce qu'on jouait avec des balles de tennis, avec des ballons, etc. Et on aimait le foot pour le foot. On l'avait dans le cœur. On faisait des Coupes du Monde. On parlait des Coupes du Monde tout à l'heure. Moi, j'ai fait des Coupes du Monde avec mes frères où on était chaque pays. Et quand on était éliminé, eh bien, on était le pays d'après. Et notre plus grand bonheur, c'était de finir la compétition en étant ou la France ou l'Italie. Bon. Et mon frère et mon fils, il me parlait de son pognon, de son fric, de ses gars avec des milliards, des voitures, etc. Et moi, je lui ai dit un jour, on revenait de la plage, on était au campo. Chez nous, on revenait de Chile, ici. J'imagine que vos auditeurs connaissent la plage de Chile en Calabre. Et on revenait, je lui ai dit, écoute, ça suffit, je vais écrire un livre sur le foot et je vais t'expliquer le foot. Il m'a dit, chiche papa, on s'est serré la main. Et alors qu'il a vécu une adolescence difficile, mon garçon, ça a été compliqué un peu pour lui. Aujourd'hui, tout va bien, Dieu merci. Dans la tempête de son adolescence, le seul cadeau que j'ai trouvé, c'est de faire ce que j'ai appelé une pleine lucarne, une transversale, un 1-2 entre nous. C'est comme ça que j'ai dédié ce livre. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi le football. Pourquoi le football ? Deux choses. Pourquoi est-ce que le foot
existe,
pourquoi ça existe ? Qui a inventé le football ? Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des Japonais, il y a 1500 ans, qui tapent dans un ballon. Il y a des Chinois aussi. Dans l'Empire romain, déjà dans l'armée, on pratique l'arpastum, c'est-à-dire un jeu avec des balles. Ensuite, il y a eu le palio, il y a eu le calcio. Les Anglais ont inventé le football à l'anglaise. Bon, ils l'ont réglementé, ils l'ont séparé du rugby. Au début, c'était quelque chose de plutôt aristocratique. Bon. Mais il y a eu aussi la soule, la choule, où on se baladait, on se battait dans les villages, les célibataires le dimanche matin, qui étaient des jeunes hommes pour se faire valoir devant ces dames, n'est-ce pas, et aussi parce qu'ils n'avaient ni femme ni enfant, eh bien, ils montraient leur bravoure en se battant contre le village d'en face. Bon, j'ai essayé d'aller chercher au fond de cette histoire pourquoi le football existe. Il y a effectivement des éléments objectifs. Pourquoi le football parmi tous les sports? Et moi, je suis un professeur à l'INSEP.
Pourquoi il est le numéro un?
Pourquoi il est le number one? Si. Pourquoi le football, sur la pyramide de tous les sports humains, tous les sports sont magnifiques, tous les sports ont leur noblesse. Le noblard n'est-il pas la boxe? Courir juste avec un short et faire en moins de 10 secondes un 100 mètres, faire des figures le long d'une poutre, tirer à l'arc, faire de la lutte. Tous les sports sont magnifiques. Chacun a sa narrativité, son côté épique, son côté tragique aussi. Et je me suis demandé pourquoi le football. Et là, vous voyez, ce que j'ai découvert, c'est que Michel Platini, revenons-y un instant, quand le 14-15 décembre 1987, il participe au supplément dominical de Libération, il est interviewé à l'époque par la toute jeune lauréate du prix Goncourt, qui est Marguerite Duras, qui vient de faire l'amant. Et on choisit Marguerite Duras, une femme qui ne connaît rien au foot, mais qui apprécie beaucoup le côté rock'n'roll de Maradona, qui avait mis la main de Dieu contre l'Angleterre en quart de finale devant Peter Shilton. Et elle lui pose la question. Elle lui dit, vas-y, elle aimait bien aussi Rocheteau, l'ange homme, elle l'appelait l'ange homme. Elle lui dit, toi qui viens de gagner 3 ballons d'or, qui a tout gagné, qui est le roi du foot, toute la planète tourne autour de toi, tu pourrais nous expliquer ce qu'est le foot? Et Platini dit un truc extraordinaire. Une passe millimétrée faite au philosophe que je suis devenu des années après. Il dit, le football, c'est rien. Tout le monde veut l'expliquer, mais personne ne sait ce que c'est. Le football, ça n'a pas de loi. Moi, qui voulais, rappelons-nous, expliquer à mon fils la quintessence du football, je me retrouve avec le roi du foot qui me dit, c'est rien. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ce rien ? Ce rien, je le prends, je le pétris comme de la boue et je le transmets à un philosophe que je n'ai jamais rencontré, mais dont j'ai tout lu, qui s'appelle Vladimir Jankélévitch, et je le transforme en de l'or philosophique. Pourquoi ? Parce que Vladimir Jankélévitch, il dit les choses les plus importantes de la vie. Réfléchissons-y 3 secondes un dimanche matin. C'est quoi les choses les plus importantes de notre vie ? C'est l'amour, c'est la mort, c'est la musique, c'est l'art, c'est la beauté. Eh bien, toutes ces choses qui sont sous nos yeux, lorsque nous essayons de les expliquer, nous découvrons leur caractère problématique. Mais la dimension problématique du problème ne cesse jamais. Quand j'ai aimé même 10 femmes, même 100 hommes, je ne sais rien de plus à l'amour. Quand je suis allé à 100 enterrements ou quand j'ai perdu mes parents, je ne comprends pas plus ce qu'est la mort. Et donc je me suis dit, et si le foot était un mystère ? Et alors, c'est un mystère. J'ai écrit ce livre comme un match entre ceux que j'ai appelés les maîtres ignorants et les gardiens du mystère.
Est-ce qu'on peut encore le trouver, ce livre ? Est-ce qu'il y a un
l'acheter ? Il a bien heureusement eu succès, ouais. Et il est temporairement indisponible, mais mon éditeur est en train de le réimprimer, et on l'aura très très bientôt sur la couverture.
Tu nous diras.
Ouais, sur la couverture, juste une dernière chose, j'ai mis une photo de Pier Paolo Pasolini, dont on va fêter, hélas, les 50 ans de la disparition, très mystérieuse, elle aussi, il faut bien le dire à Ostia, cette nuit-là, hein. Et sur la couverture, j'ai mis Pasolini en train de courir au milieu de gamins qui rigolent en voyant en costume 3 pièces ce type courir avec un ballon.
Didier, tu voulais...
Oui, je voulais juste dire quelque chose. Le football, oui. C'est un peu un fait de société. Même les gens qui n'aiment pas ça en parlent. Donc, tout le monde parle de football, c'est universel, tout ouais. Simplement.
Oui, mais justement, c'est un fait que nous avons sous les yeux. C'est un vrai fait de société qui fait que ma mère, qui ne connaît rien au foot, passe de la cuisine à la salle à manger quand il y a série de pénalties à la fin de voilà. La finale de la Coupe du Monde. Et c'est justement ça que
tu
j'ai voulu
résumé.
Analyser aussi.
Oui, tu as tout résumé.
Alors, on va écouter ces 14 secondes, hein, un tout petit extrait très court. Il faut bien tendre l'oreille aussi. C'est un extrait de Les Bleus dans les yeux, Aimé Jacquet, qui motive ses troupes avant le quart de finale France-Italie de 98. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Écoutez.
J'ai décontracté les mecs. Bien souple, bien souple. C'est pour la santé, ça. C'est pour la 89e minute, ça. Comment niquer les Italiens ?
En fait, il court dans les bois et puis tout d'un coup, il veut motiver les Français. Il leur dit, oh, à la 89e minute, on va mettre un but, on va niquer les Italiens. Mais ce qui est intéressant dans cette phrase, moi, je trouve, c'est que ça me ramène au coup de boule de 2006.
Oui,
tout à fait. Se dit oui. Toujours, mais ouais, mais Materazzi, il n'était pas sympa, il a été un peu insultant, etc. Mais c'est quelque chose qui, bon, ça existe encore maintenant, peut-être un peu moins, mais à l'époque, existait. Tout le temps de dire des choses comme ça, on va les niquer, on va. Enfin, excusez-moi, mais
il y a toujours eu ça. Alors,
Michel, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, je te remercie d'avoir exhumé ce son, donc c'est moi qui t'ai parlé. Parce qu'évidemment, moi, quand je l'ai entendu à l'époque, moi, ça m'a fait un peu mal. Ça m'a fait un peu mal parce que justement, ça fait partie de cette chronique, de cette rivalité un peu âpre et rêche qu'il y a entre la France et l'Italie. Et je pense que Aimé Jacquet est un garçon intelligent avec le cœur assez simple et assez pur. Il l'a dit pour motiver ses troupes. Il l'a dit comme ça, quoi.
Oui, comme on faisait à l'époque. Voilà.
Simplement, l'image, on va les niquer. L'image, on va les niquer, qui est une image à caractère sexuel, avec une forme de brutalité et d'humiliation. C'est quelque chose qui, moi, me touche dans le sport, oui, parce que, tu vois, par exemple, dans le sport, on va dire, on va les niquer, les gars d'en face, hein, on n'est pas des PD, etc. Tu vois. C'est quelque chose que moi, j'apprécie assez peu. Mais c'était une très, très bonne occasion de parler de la rivalité entre la France et l'Italie, la France-Italie, si je puis dire, n'est-ce pas, qui est un match qui s'est vraiment joué dans les années 70 et 80. Moi, je l'ai vécu depuis le vestiaire de foot comme jeune joueur. C'est-à-dire que moi, dans le vestiaire de foot, j'étais désigné avec un autre gars qui jouait au foot avec moi, qui s'appelait Elio, qui était un joueur brillantissime, qui a joué au PSG ensuite en équipe de jeunes. On était l'Hérital de service. Alors, l'Hérital, faut que vous fassiez votre numéro, vous passez la baballe entre vous, vous vous débrouillez, mais vous la mettez au fond. Bon. Et je crois que Zidane, qui était très italianisé à l'époque, puisqu'il avait joué à la Juve, même si à ce moment-là, il jouait au Real Madrid, c'était tout à fait différent avec Materazzi. C'est-à-dire, c'est Materazzi ce jour-là qui, autant Jacquet a montré un visage que je n'aime pas trop par ces mots-là, je trouve qu'il n'avait pas besoin de dire ces mots-là, surtout pas comme sélectionneur de l'équipe de France, mais bon, c'est pris par une caméra, et il ne s'y attend pas, hein, c'est pris comme ça, c'est un peu la vérité du vestiaire ou de l'entraînement, et je pense que Materazzi, le jour où il a insulté Zidane, il n'a pas montré le plus beau visage du football, c'est-à-dire qu'en fait, il a servi sur un plateau à la critique vue du côté français de ce qu'était une certaine Italie du football. Le vice, ça n'a rien à voir avec le foot, l'insulte. Alors nous, avant, quand on était italien, on nous disait vous êtes des casseurs, vous faites du chiquet, vous gardez le ballon derrière. Il faut savoir qu'au football, il y a une règle qui a changé, c'est que le gardien de but ne pouvait plus garder la balle à la main. Nous, quand on était gamin, on gardait la balle à la main et on faisait semblant de tomber par terre et on faisait des dégagements dans la tribune. Et les Italiens, c'était les spécialistes de ça. Et à cette époque-là, c'était plutôt les Français qui jouaient au ballon. Et moi, je me rappelle d'avoir fait des tournois internationaux où je jouais côté français, notamment en Hollande. Je jouais côté français contre des Italiens et je détestais les Italiens contre qui je jouais parce qu'ils nous cassaient, ils faisaient du chiquet, ils se roulaient par terre comme des tondeuses à gazon, alors que nous, on essayait de développer un vrai football.
Oui, alors juste un truc, il faut quand même aussi remettre ça dans le contexte. Il faut quand même voir que si les Italiens, c'est vrai, ont souvent joué à une certaine époque avant qu'il y ait la fameuse passe entrée qui soit interdite, c'était aussi parce que les Italiens voulaient gagner et qu'ils n'ont jamais eu des Pelé, ils n'ont jamais eu des Maradona. Et donc, ils jouaient avec leurs moyens. Si les Italiens, à l'époque, dans les années 70, auraient joué avec le jeu à l'attaque et tout ça, mais ils auraient toujours
perdu. Ils avaient le catanache.
Comme les Français.
Bien sûr.
Et ils jouaient en défense parce que c'était avec les grands joueurs qu'ils avaient à l'époque, et c'était leur jeu.
Bien sûr. Mais voilà. le catenaccio, c'était inventé plutôt du côté de l'Inter. Ça a été devenu une culture nationale.
C'est Herrera qui l'a amené.
Bien sûr. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est parfaitement juste. Michel, ils jouaient avec leurs moyens,
c'est très juste.
C'est
ça le truc.
Et leurs moyens étaient des moyens plutôt tactiques et d'intelligence que physiques, certainement pas. Et technique, effectivement, ils n'étaient pas les meilleurs.
Ils étaient limités par rapport à bien sûr.
Après, pour revenir à Aimé Jacquet, à l'époque, l'équipe de 98 de l'équipe de France, il y avait beaucoup de joueurs français qui avaient été formés par les clubs italiens. Faut pas l'oublier.
Tout à fait.
98, ça marque un peu la Coupe du Monde, elle est complètement italienne. Hein,
les Deschamps, les Thuram, tout ça, avaient été formés en Italie.
Allez, une pause musicale et puis on reviendra encore à cette bataille-là. Lucio Dalla, Attenti al Lupo.
Ciao. quand j'étais piccola così sciocco. Con tante finestrelle colorate, oh baby. E una donnina piccola così, con grandi occhi per poter guardare. E c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi da lavorare, oh baby. E un cappello piccolo così, con dentro un sogno da realizzare. E più ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attento al lupo. Living together, oh oh, living together, oh oh oh. Lasci un bardo piccolo così, con un gran rumore di cigare, un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio, è arrivata l'estate. E noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicale. Un amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare. E più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenti al lupo. Bravo, 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 bravo. Living together, oh, oh. Ragazze di Verona.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Et oui, c'est vrai, et c'est tous les dimanches de 8h à 11h sur le 93.1. On est avec Didier Béraud, avec Stéphane Flocari, et on parle de catch. Et c'est vrai qu'on est complètement fou parce qu'on a la tension qui est à 25. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un truc, comme tu disais tout à l'heure, qui en fait est complètement abstrait, qui est complètement fou, parce que même des grands personnages politiques de la chanson ou de la philosophie sont passionnés par cette boule de cuir qui roule. Rappelle-toi juste un truc incroyable. Pertini, en finale de 82, qui est là, un petit bonhomme qui saute. Qui
ça
saute.
Rend foot.
Alors que bon, j'imagine qu'il ne connaît pas grand-chose en foot, mais il avait d'autres choses. Mais là, voilà, il est pris par le truc. Et voilà, ça, c'est un truc qu'on ne peut pas expliquer.
Ah, ça, c'était magnifique, parce que l'ancien partisan toscan, l'ancien résistant, enfermé dans les geôles fascistes, Pertini, devenu président de l'Italie. On sait qu'en Italie, la fonction présidentielle, ce n'est pas une fonction comme en France, c'est une fonction extrêmement symbolique. C'est quelqu'un qui incarne les institutions et qui chapeaute la vie politique d'un pays. Pertini, ce petit bonhomme avec ses cigarettes, qui jouait à la scopa, qui jouait à la briscola. C'est plutôt la briscola, la belote italienne. Dans l'avion, on le voit au retour. Avec Zoff, il s'est engueulé. Il s'est engueulé avec eux. Hein, ouais. Et il jouait une sorte... Voilà,
elle est belle, cette photo.
Elle est très, très belle, cette photo, dans l'avion. Mais moi, ce que j'avais trouvé le plus beau dans cette finale, moi, c'était Pertini qui sautait, là. C'était magnifique. Mais surtout,
mais oui, c'était
la joie de Tardelli. Tu te rappelles de la joie de Tardelli?
Alors, si justement, on va se faire un petit plaisir. On va écouter Bruno Pizzul, qui lui, malheureusement, n'est plus, mais qui commente la finale de 82 Italia-Germania.
La plus belle joie.
Fallo di Rummenig. Suoriali, battuta la punizione. Cross di Gentile. Gol! Ha segnato Rossi. Bergomi. Scirea. Tardelli. Riesce a liberare Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio. Va in avanti Conti. Traversone, Altobelli. E sono 3, e sono 3. Altobelli. Terzo gol di Altobelli. Gol di Altobelli. Che ha dribblato il portiere e ha segnato a porta vuota. 3 a 1, ha segnato Breitner. Gentile, è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, insieme con il Brasile, è 3 volte campione del mondo.
Wow, on a le cœur qui...
Ah ouais, ouais, ouais. Hein? Il y a tellement de souvenirs, Michel, ouais, qui remontent, parce que 1982, moi j'ai 9 ans, je suis donc à Tarquinia, je vois l'Italie gagner, je sais qu'en France, j'ai des cousins qui sont à Vitry, qui sont partis avec des tracteurs, avec des voitures, sur les Champs-Élysées. Ils ont pris les Champs-Élysées avant 98, ces Italiens qui l'ont fait en 82. À Vitry, mes cousins de la rue du Progrès, à Vitry, ils avaient repeint des trottoirs et des lampadaires en vert, blanc, rouge. C'était un truc extraordinaire. Mais ce qu'il y a de plus beau pour moi, je te remercie aussi d'avoir passé ce son, c'est vraiment le but de Marco Tardelli. Tardelli, c'était un joueur, c'était un travailleur de l'entrejeu, du milieu du terrain. C'était un joueur, un constructeur, c'était un maçon, du jeu italien. Et là, il a la chance, je ne dis pas qu'il avait des pieds carrés, mais il a la chance de mettre un but extraordinaire. Et sa joie n'est pas une joie comme ça. C'est-à-dire, on voit que sa joie exprime ce qu'est la joie. Qu'est-ce que c'est que la joie ? Quand on est heureux, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est heureux, notre être se dilate. Notre être devient spatialement plus large, plus grand. On voit, je ne sais pas si vous vous rappelez les images, il est filmé en gros plan magnifiquement par la télévision espagnole. Son visage s'ouvre, on voit qu'il crie quelque chose qu'on n'entend pas. Son cœur accélère et en même temps, on voit que le temps ralentit pour lui. Il remue les bras, il serre les poings, il se redresse, il court au milieu du terrain comme un dératé. Au passage, Platini était un dératé. Il avait eu un accident de voiture, il avait eu un éclatement de la rate. Et la rate, ça vous fait courir un peu plus vite. Ça l'avait sans doute fait augmenter ses qualités par rapport à Metz. Et Tardelli, cette joie-là, c'est une joie mais tellement extraordinaire. Et je crois que dans une vie, il y a des instants qui sont des instants décisifs. Et là, c'est toute sa carrière, tout son rêve qui se réalise. Il est footballeur. Il est italien, il aime son pays, il veut gagner la Coupe du Monde, il marque en finale, il fait gagner son équipe. Waouh, il est sur le sommet de la vie là.
C'est certainement la plus belle joie pour un
Didier, toi qui es français, tu as vécu ça.
Oui, j'ai vécu
aussi.
Ça. J'étais toi impressionné aussi, ça par cette joie. Ah ouais, ça m'a beaucoup impressionné. Pour moi, encore une fois, c'est la plus belle joie. Il y a eu celle de Giresse.
Exactement,
après,
exactement.
Qui était avec ses petits bras qui.
Tout à fait. En demi-finale.
Voilà. Mais cette joie de Tardelli, c'est vrai, il a le visage déformé, c'est extraordinaire.
Ouais,
extraordinaire.
Il a le visage traversé, c'est comme une extase.
Voilà.
C'est
à chaque fois que je la revois, j'ai toujours des frissons parce que cette joie est vraiment. On est tous transportés par cette joie.
Ah, ouais. Merci d'en parler, c'est magnifique.
Ce qui est fou, c'est qu'en fait, l'Italie a gagné une autre Coupe du Monde après en 2006. Et quand la majorité des Italiens, quand on leur parle de la Squadra Azzurra, c'est quoi ? C'est 82. Et ça, c'est étonnant.
Mais c'est pareil,
c'est pas 2006, c'est 82.
C'est normal.
Peut-être la France aussi.
C'est normal parce que le parcours est tellement incroyable avec un premier tour qui est laborieux. Puis après, au deuxième tour, ils éliminent les plus gros, notamment le Brésil avec un Paolo Rossi qui ressuscite. C'est normal, cette Coupe du Monde, je pense qu'elle a marqué et les Italiens et le monde du football. C'est complètement
bien
normal.
Mais alors, gagner, c'est la joie suprême à la fin d'une Coupe du Monde. Mais les Français ont gagné deux Coupes du Monde à 20 ans d'écart. Ils en ont gagné une en 98, ils en ont gagné une en 2018. Bon, vous avez vu là, j'ai dit les Français, je me suis mis en dehors. Je me suis mis en dehors parce que c'est vrai, que pour le football, j'ai toujours été plutôt côté italien. Je sais qu'il y a un Torinese qui est arrivé dans le studio. Moi, j'ai toujours été milaniste. Il
faudra
je...
qu'un jour, on fasse une émission sur ça.
Absolument.
Pourquoi, quand on est né en France, parents italo-français, on est quand même un peu plus pour la squadra que pour la France. Il faudra que... Il y a sûrement quelque chose à expliquer.
Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais si on regarde les deux Coupes du Monde gagnées par les Français en 1998 et en 2018, ce n'est pas les deux Coupes du Monde où ils ont développé leur plus beau jeu. En 2006, ils la perdent et ils sont tellement plus champagne, tellement plus pétillants quand ils jouent contre le Brésil, quand ils jouent contre l'Espagne. Ils font des matchs beaucoup plus intéressants. En 98, ils ont gagné comme des Italiens. Et d'ailleurs, ils ont même gagné contre les Italiens en quart de finale. J'étais dans le stade, toi aussi, Michel. 0-0 et au péno. Vous aussi, monsieur.
Est-ce qu'on peut résumer, c'est la première mi-temps contre la Croatie, mettre deux buts et ils ont une occasion.
Exact. Mais par contre, là, comme parfois dans le football, il se passe un miracle, c'est magnifique. C'est la réparation immédiate d'une faute. Normalement, une faute, on y repense. C'est ce que Jean Kelevitch appelle la mauvaise conscience. Thuram, il fait une boulette. Schuker met un but juste avant la mi-temps. Magnifique attaquant qui ressemble un peu à l'acteur américain Gabriel Byrne juste avant la mi-temps. Et Thuram, qui a les pieds carrés, alors lui, il en fout deux au fond et il sauve son équipe et il efface, il gomme sa faute tout de suite. C'était un moment très, très beau, ça.
Et Thuram... Il est comme ça. Il se dit, mais... Hein, quand il se demande, mais... Enfin, il prend sa main, on ne peut pas expliquer, là, comme ça. Il se dit, mais c'est moi qui ai marqué ça, parce que lui, il ne marque jamais.
Et allons jusqu'au bout, Michel. À l'époque, Thuram, il est italien et joue à Parme.
Il joue à Parme, oui, tout à fait, oui.
Alors, on va faire une dernière pause musicale. C'est une chanson que tu as choisie qui rappelle ton pays, Calabria Mia.
Ah oui, j'aime beaucoup. Mino Reitano, c'est un chanteur de Fiumara. C'est le village dont vient le père de mon père, qui est un village très particulier sur lequel, crois-moi, on pourrait faire une émission entière.
Eu prego notte e giorno, lui, signori, a tutti i figli tuoi a natornari. Lo sanno che tu si malata i cuori, lo sanno che così non puoi campare. E tu restas fin das di quattro mura. Calabria mia, casi se caro burulisci umari, per rimanere soli chianchi e sciuri, un nostro pianto va a finire a mari. Amiga Calabria mia, siamo malati d'amore, siamo malati come sti mandolini e sti chitarri, changi sto cuore di nostalgia, change battia, Calabria mia, change sto cuore di nostalgia, change battia, Calabria mia. A mamma prega sempre a Maronna. Cavoli li so figli da so terra e prega e o cori ciangi affanna
ma se c'è il lavoro ca, suo figlio torna.
Alors, il n'y a pas que le foot dans la vie, hein. Il y a autre chose aussi. Et notamment pour Stéphane Flocard, il y a aussi Nietzsche. Voilà, Nietzsche, et tu as fait un livre sur Nietzsche à Messine. Et Alain Mingua nous en parle.
Marcello Manto qui a écrit cet ouvrage sur ce voyage assez mystérieux de Nietzsche à Messine. Il venait de la région de Gênes, en plein Sirocco, qui ne pouvait pas supporter le Sirocco. Et pourtant, il est allé faire ce voyage anonyme, enfin de façon anonyme, et ça reste un petit peu un mystère.
Tout à fait, ça reste un mystère. Alors pour le faire très bref, ce voyage de Nietzsche à Messine, c'est quelque chose que je voulais écrire moi-même. Puis j'ai découvert que le journaliste de la Gazzetta del Sud, Marcello Mento, avait écrit un livre là-dessus. J'ai traversé le Détroit, je lui ai demandé son livre, je l'ai lu deux fois à Taormina en vacances avec ma femme. Et puis j'ai décidé de le traduire immédiatement. Et puis Patrice Corrieras et Dominique Corrieras des éditions Ipagine ont accepté immédiatement le projet. Et donc j'ai traduit ce très beau livre de Marcello Mento pour essayer de comprendre ce que Nietzsche avait vécu en Sicile. Donc c'est un livre tout à fait particulier pour moi. Et puis évidemment, traduire de l'italien dans la langue de Molière, ça a été quelque chose de formidable. Surtout, c'était un moment où j'étais en train d'écrire La bibliothèque idéale de Nietzsche, qui sort d'ailleurs le mois prochain aux Belles Lettres. Et évidemment, Nietzsche, Messine, la Sicile, la philosophie. Bon, évidemment, il n'y a pas le football dans le pack, mais quand même, il y a presque tout ce que j'aime, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres ? Alors là, on peut le trouver chez Ipagine.
On peut le trouver aux éditions Ipagine, absolument. J'espère qu'avec avec l'ami Alain, bientôt, on va pouvoir en parler dans une librairie parisienne. On vous en reparlera peut-être ici. Et puis, c'est un livre sur lequel j'espère organiser un certain nombre d'événements pour mieux faire connaître le séjour de Nietzsche chez nous, en Sicile.
Est-ce qu'il y a d'autres livres qui sont en préparation ?
Oui, je sors un livre le mois prochain, le 7 novembre, aux Belles Lettres. J'ai traduit 500 des plus belles pages et des textes les plus forts de Nietzsche. Alors cette fois-là, je suis traducteur de l'allemand, parce que je suis spécialiste de philosophie allemande. Et j'ai voulu prendre tous les plus beaux textes de Nietzsche sur l'alimentation, le voyage, la sexualité, l'éducation, les Grecs, les anciens, le langage, la science, et les faire lire à tout le monde, que même des non-spécialistes de philosophie, des êtres simplement curieux, puissent le lire. Et puis sinon, sur ma table de travail, j'ai un très gros projet sur lequel je travaille depuis 6 ans, qui est un livre que je veux écrire sur l'attente et sur le temps, parce que je pense que nous vivons tous nos vies suspendues, en transit, en tension. Nous sommes toujours en train d'attendre quelque chose. Nous attendons le retour de quelqu'un, nous attendons un message, un signe. Nous attendons peut-être aussi parfois la mort, ou au contraire de renaître quand on a été blessé ou malade. Et je voudrais écrire un vrai beau, si je peux, si j'en suis capable, je ne sais pas, un vrai beau livre sur l'attente et sur le temps. Merci. Merci Michel, merci beaucoup.
Peut-être on retravaille ensemble, voilà, allez, comme dans le football, allez. On espère que c'était assez sympathique de mélanger justement le foot avec la philosophie, un peu comme cet entretien Marguerite Duras et Platini.
Tout à fait.
Un peu ça.
Eh bien, c'est la parole d'Alain avec sa rubrique cinéma.
Cinéma et un petit peu de littérature et d'histoire de l'art. Alors, au cinéma, le film à voir en ce moment, c'est le Berlinguer, La Grande Ambition, en sous-titre, d'Andrea Segre. Andrea Segre, qui était un documentariste jusque-là, et là, qui nous fait un film, également une sorte de documentaire, donc sur Berlinguer, ce secrétaire général du PC italien de la fin du XXe siècle. Et c'est Elio Germano qui interprète le rôle de ce secrétaire général, qui a essayé même d'adoucir la position du PC en allant à Moscou. Autre chose, le cinéma Mac Mahon, lui, propose une rétrospective de Ettore Scola, et ainsi que de tous les films de Antonella Lualdi. Il surveillait le programme du Mac Mahon, c'est ce cinéma historique de la Nouvelle Vague qui est près de l'Étoile, avenue Mac Mahon. Et puis, dans la série Venezia e Viva, le prochain film sera Une ville de la mer, un film de 1969 fait par une réalisatrice française qui est Annick Bellon et qui déjà en 1969 montrer les problèmes que peut avoir la ville de Venise. En ce qui concerne la littérature et l'art, vous connaissez tous la Fornarina, ce célèbre portrait de Raphaël qui serait sa maîtresse, mais là, dans cette série des éditions Henri Dougier, peut-être y aurait-il un autre personnage. Peut-être a-t-on découvert le secret de ce personnage. C'est un ouvrage signé d'Amélie Ferrigno que vous pouvez commander chez votre libraire habituel ou commander aux éditions Atelier au pluriel Henri avec Y, Dougier, D-O-U-G-I-E-R. Suivez également pour la semaine italienne qui va se produire à la fois à la mairie du 13e avec une exposition sur Marcello Mastroianni et puis également à la Maison de l'Italie puisqu'on va bientôt commémorer les 50 ans de l'assassinat de Pasolini, donc la nuit entre le 1er et 2 novembre 1975. Ecco tutto pour la rubrique. Si,
si juste, on salue qui ? Tutti participanti oui. Del Cine Club, oui. On a fait un carton vendredi soir,
voilà.
Plus de 33 personnes qui étaient là, et on les remercie, bon. Les Brigitte, Pierre-Yves bon. Aussi, bon. Qu'on salue, et sa femme également, donc voilà, c'était un bel oui. Hommage à Claudia Cardinal.
C'est bel hommage à Claudia Cardinal dans ce film de son mari Pasquale Sgutieri e Guappi.
Et le mois prochain ça sera un hommage à
Pasolini, puisque voilà, on commémore plutôt les 50 ans de son assassinat.
Voilà, avec aussi une présentation d'un livre sur Pasolini juste avant justement ouais. L'hommage à Pasolini.
Donc, par
voilà.
Stefano Palombari de l'Italie à Paris.
Merci, merci. 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 Et là, on va écouter la belle voix de Cantaline. On ne l'a pas entendu
oui,
beaucoup
à défaut,
aujourd'hui.
Pour trop. D'avoir fait l'émission, je vais au moins vous dire au revoir et je vais faire une petite annonce.
C'est dommage, Chantal.
Voilà. Donc, l'association Italiane in Europa organise un voyage culturel en Albanie du 15 mai au 22 mai. On passera par Tirana, Pollina, Saranda, Porto, Palermo, etc. etc. Pour toute information, vous téléphonez à Marie-Rose au 06 89 10 67 53, 06 89 10 67 53 ou à Chantal au 06 66 25 92 88, 06 66 25 92 88.
On salue Raphaël Fiore qui nous a fait un petit coucou, on l'embrasse de la CLI. Et puis, ben voilà, on dit au revoir à tout le monde, c'est la fin. Lino.
Buona domenica a tutti.
Un salut Enrico Mastro Giovanni. E ci vediamo
domenica,
quando?
Ma domenica prossima.
Ma si è sicuro?
Ma
a che ora?
A che ora? Te lo sai benissimo.
Sì, ma io lo so benissimo, ma le altre. Forse Renatina, a che ora?
E spera che non ci siano corse a piedi.
Ah, ancora sì. Sì, siamo ancora lì, se volete telefonare 01 40 24 29 29. Voilà. Grazie.
Ciao,
ciao
a tutti.
Ciao.